Nous saluons tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir nous rassembler de cette manière, malgré le fait que nous sommes encore une poignée, mais c'est quand même mieux qu'avant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gouvernement a relevé les nombres à 250 pour les rassemblements. Donc, c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil que de prêcher face à des bancs vides. Et donc, nous voulons remercier le Seigneur de la manière dont il pourvoit. Nous remercions Dieu de nous avoir gardés en ces temps. Ces temps auxquels nous faisons face contiennent bien des défis, bien des challenges. Et donc c'est un temps de purification, d'un temps où l'on coupe, où l'on taille, comme pour la taille des arbres, où on voit un certain nombre de frères et sœurs qui sont comme taillés. Et où les choses deviennent claires, qui aime le Seigneur de tout son cœur et est enflammé, en feu pour le Seigneur. Qui est celui, celle qui est consacré au Seigneur, qui l'aime de tout son cœur. Et quelles que soient les circonstances, Seigneur, je t'aime. Que nous soyons peu, que nous soyons nombreux, tant que toi, Seigneur, tu es là. Alors ceux qui ont ce feu et cette ferveur dans le cœur persévèrent. Peut-être certaines se ressentent comme une branche qui brûle dans le feu, et à un moment donné, vous retirez cette branche ou cette bûche du feu, et peut-être vous expérimentez comme cette bûche qui, éloignée du feu, s'éteint petit à petit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, enfants de Dieu ? C'est pour nous un temps où nous devons nous rapprocher les uns des autres vers ceux et celles qui sont comme cette bûche où il y a encore quelques lueurs rougeâtres. Et alors à nous de se rapprocher d'eux et de les encourager en disant « Mon frère, ma sœur, qu'en est-il ? Que se passe-t-il ? » Et nous pouvons encourager les uns les autres en disant « Frère, sœur, tu n'es pas seul, tu n'as pas besoin d'être isolé. Il y en a qui veulent être un avec toi, il y en a qui veulent servir le Seigneur uni. Et par-dessus tout, il y a le Seigneur Jésus qui ne désire pas que ce feu dans ton cœur ne s'éteigne et ne meure. » C'est donc pour nous un temps où il nous faut être actifs, il nous faut être engagés pour aller vers ceux et celles que nous voyons mourir spirituellement et que nous puissions les encourager et leur dire, frères, sœurs, persévère, il y a encore de l'espoir. Alors souvenez-vous, réalisez que le diable lui-même est là, est présent, actif, et qu'il apprécie particulièrement ces temps comme ceci. Quand Satan trouve quelqu'un qui est enflammé pour le Seigneur, alors il va faire tout son possible, va planter ses graines, va planter la critique, la recherche de fautes chez les autres. Et alors, tout paraît noir et sombre. Et c'est ainsi que le diable influence la vie de la personne. Mais nous sommes reconnaissants de nous avoir gardés. Nous remercions le Seigneur. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à tous, vous tous qui êtes venus ce matin pour cette réunion. Nous voulons souhaiter une particulière bienvenue à la famille Houston, à Oncle Hogarth, puisqu'il vient d'avoir célébré son 92e anniversaire cette semaine. Alors, on peut aussi applaudir pour ceux qui parlent anglais. Donc, Oncle Hogarth, Houston, qui a eu 92 ans. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les personnes âgées qui sont encore enflammées en feu pour le Seigneur et qui montrent l'exemple. Alors que le Seigneur puisse te garder, te préserver encore pour toutes les années que le Seigneur veut t'accorder. Et quel encouragement pour nous qui sommes plus jeunes, lorsque nous voyons des personnes âgées être devant nous, avoir marché devant nous et continuer à être persévérants et servir le Seigneur d'un cœur entier. Alors, il demande si on peut organiser un micro pour que nous puissions demander à Oncle Hogarth d'ouvrir cette réunion avec une prière. Il n'y a pas besoin de venir devant, si on peut juste lui donner un micro et qu'il peut juste prier avec nous. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que nous puissions être rassemblés en ton nom. Seigneur, merci de ce que tu es encore vivant jusqu'à ce jour et que ton amour pour tes enfants ne s'arrête jamais. Et que nous puissions faire partie encore de ton corps et d'aimer tes enfants. Mais Seigneur, garde-nous par ta main que nous ne glissions pas de ce chemin. Et Seigneur, accorde-nous des cœurs réceptifs, doux et ouverts à ta voix. Seigneur, que ces paroles que nous allons entendre ce matin, cette nourriture spirituelle que tu prépares, que nous puissions la prendre et la garder. Seigneur, s'il te plaît, agis par ton serviteur. Et tout cela, nous le demandons, nous le prions, afin que ton nom soit glorifié et élevé. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur d'avoir encore sa parole. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous parle encore au travers de sa parole. Alors nous voulons lire un passage dans le premier livre de la Bible, un passage qui m'a touché, qui a remué mon cœur. C'est un passage qui se trouve dans la Genèse. Genèse 4. Nous allons lire quelques versets que nous voulons examiner. Alors ce matin, j'avais à cœur de parler particulièrement sur le sujet de l'offrande, d'apporter une offrande, un sacrifice. Alors, cette histoire se trouve, se passe parmi les premiers hommes qui ont peuplé la terre. D'un côté, il y avait une bonne issue. Et d'un autre côté, il y a eu une mauvaise issue de cette histoire. L'issue qui a eu une influence jusqu'à aujourd'hui. Et cet événement a une conséquence aujourd'hui encore. Et on a même l'impression que l'impact de ce passage, de cette histoire, a un impact grandissant dans le monde d'aujourd'hui. Et ça brise le cœur, c'est même triste quand on considère que cet événement qui s'est passé alors, s'est passé même dans la maison de Dieu alors que l'Éternel était adoré. C'est au cours d'une adoration de Dieu que cet événement s'est passé. Il en peut être ainsi d'être dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur, mais il est aussi possible qu'au sein de la maison de Dieu, le mal puisse grandir, puisse germer, même au cœur de la maison de Dieu. Et ce mal germe dans ton cœur. Et tout cela a eu l'origine, a commencé par quelque chose de bon, par quelque chose qui a été choisi par eux-mêmes. Et on peut se poser la question, se dire, mais comment est-ce qu'une si bonne chose a pu terminer si mal ? Alors lisons la parole de Dieu, verset 1er du chapitre 4, Genèse 4, verset 1. C'est l'histoire de deux frères issus des mêmes parents, et pourtant quelque chose de terrible s'est passé. Alors lisons verset 1 du chapitre 4 de Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Verset 2, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Verset 5, Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Verset 7. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. Verset 8. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous allons lire jusque-là. Nous voulons encore prier. Seigneur, nous te prions de bénir la lecture de ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs à travers de cette parole. Amen. Ce que nous avons lu là vraiment remue le cœur. Et alors que cette parole remue le cœur, elle doit nous enseigner la manière dont il nous faut marcher avec le Seigneur, la manière dont il nous faut le servir. Cela ne suffit pas de dire « Ah, mais je suis un enfant de Dieu, je suis connu pour être croyant et enfant de Dieu ». Oui, c'est une bonne chose d'être un enfant de Dieu, de se séparer du monde, de servir et de suivre le Seigneur. Mais c'est une situation précaire si tu te concentres sur le fait de dire « Je suis un enfant de Dieu », mais que tu ne considères pas ta vie et que tu examines est-ce que tu entends encore la voix de Dieu, est-ce que tu marches avec lui, est-ce que tu es obéissant, est-ce que tu es en lui encore ? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se réclament du nom de l'Éternel, du nom du Seigneur, et qui pourtant ne lui obéissent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, sont dirigés par leurs émotions, par leurs sentiments, leurs propres idées, et ils n'écoutent et ne suivent pas la parole de Dieu. Alors là, dans cette histoire, les deux frères avaient chacun leur tâche, on pourrait dire, ils avaient leur propre carrière qu'ils suivaient. Et il n'aurait pas dû être que le fait que l'un soit troublé par l'autre, parce que cela n'avait pas d'importance de savoir ce que l'un ou l'autre faisait. Chacun avait sa propre tâche, chacun avait son propre travail. Chacun avait ses propres choses à s'occuper. Donc il n'y avait pas besoin que l'un ou l'autre soit jaloux de ce que faisait l'autre frère. L'un cultivait les plantes vertes, l'autre s'occupait du bétail, et donc les deux avaient une tâche qui était importante ou qui était utile. Et on pourrait dire aucun d'entre les deux n'était dépendant de l'autre. Chacun avait son propre travail. Et à un moment donné, chacun dans leur travail, dans leur tâche, ont ressenti le besoin de faire une offrande. Offrande. Personne n'a forcé l'un ou l'autre. Et nous lisons même que c'est Caïn qui a en premier apporté son offrande. Caïn qui était donc l'aîné. Et ainsi, Caïn a apporté une offrande des produits de son travail, des produits de la terre qu'il travaillait, à la manière d'un prêtre qui apportait le sacrifice. Alors rappelez-vous, Caïn, son nom voulait dire « avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme ». Ses propres parents avaient un espoir en lui. Quand ils ont dit « j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Peut-être ta mère pourrait dire la même chose, se réjouir de toi en disant « le Seigneur m'a accordé un fils ». Cette mère s'est réjouie en disant « j'ai eu un homme avec l'aide de Dieu ». Elle avait donc des attentes, mais on ne sait pas, lorsqu'on amène un enfant au monde, alors on peut avoir des espoirs, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra de cet enfant. Et certains enfants ont des noms, des prénoms merveilleux. Et il arrive souvent que l'enfant suit ou est en relation avec le nom qu'on lui a donné. Et particulièrement parmi nous, les Zoulous, quand on donne un nom à un enfant, il a une signification. Et souvent, on constate que l'enfant va accomplir ou faire ce que son nom veut dire. Peut-être dans une famille, dans une certaine famille, un enfant va nommer le guerrier. Et vous constatez plus tard dans sa vie qu'effectivement, cet enfant devient un bagarreur et tout le temps à se battre. Et ainsi, vous avez différents noms, prénoms qui sont donnés, et alors on constate que l'enfant suit le nom qu'on lui a donné, que ce soit bon ou mauvais. Et ainsi, ici, dans cette histoire, quand nous voyons Caïn, lorsqu'il est né, ses parents lui ont donné un nom merveilleux, avec une implication. Mais nous voyons dans l'histoire que la vie de Caïn est allée à l'encontre, à l'opposé du nom que ses parents lui avaient donné. Oui, il a fait le travail d'un homme, mais lorsqu'il est arrivé à ce point d'apporter cette offrande, on pourrait dire, c'est là que les choses ont mal tourné. Ses parents avaient placé un espoir en lui quand il est né, en ayant nommé « avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme ». Et malheureusement, il a fait le contraire de son nom. Il est même devenu un ennemi de Dieu. Il était rempli de désobéissance. Et je me suis posé la question, et j'étais même troublé en lisant ce passage, avec la question suivante. Qu'est-ce qui a fait que Caïn a mal tourné ? Comment se fait-il que lorsqu'il a apporté son offrande, il est dit que Dieu n'a pas considéré son offrande. À l'inverse d'Abel, quand il a apporté son offrande, il est dit que Dieu eut un regard favorable envers l'offrande d'Abel. Pourtant, tous les deux ont fait quelque chose de bon, quelque chose de recommandable, à savoir d'apporter une offrande à Dieu. Et tous les deux avaient apporté une part du fruit de leur travail. Mais donc, comment se fait-il que Dieu porta un regard favorable sur Abel et pas sur Caïn? Tous les deux ont compris ce mystère, que nous devons remercier le Seigneur avec les bénédictions qu'il nous accorde. Et en remerciement, il nous faut apporter une offrande en retour pour le remercier. Et pourtant, nous voyons aussi le grand danger en cela, en l'offrande, puisque l'une a été acceptée, l'autre a été rejetée. Et il nous faut donc apprendre une grande leçon à partir de cela. Et quelle était la raison pour que l'offrande de Caïn ne soit pas acceptée? Était-ce parce que dans l'offrande elle-même, il y avait quelque chose? Était-ce à cause des mains qui apportaient cette offrande, ou était-ce autre chose qui a fait que cette offrande ait été rejetée par Dieu? Alors, souvenez-vous, cette offrande qu'ils ont apportée à Dieu, c'était pas un jeu, ils apportaient une offrande à Dieu lui-même. Il ne s'agissait pas d'une comédie. Et Dieu ne voit pas l'hypocrisie. Et ainsi, lorsque on apporte une offrande à Dieu, un sacrifice, Dieu regarde au-delà du sacrifice ou de l'offrande. Beaucoup apportent une offrande à Dieu, mais par là, ils essaient de couvrir leur péché. L'offrande est là pour cacher le péché. Peut-être certains apportent une offrande en espérant ainsi impressionner la personne à qui ils apportent l'offrande. Ainsi, ils veulent impressionner les autres avec le type d'offrande ou avec la taille de l'offrande qu'ils font. Mais Dieu va au-delà de cela. Dieu ne s'arrête pas qu'à l'aspect extérieur, qu'à la taille de l'offrande. Il ne voit pas que l'offrande, il voit bien au-delà. Et Dieu voit les choses cachées. Et nous ne voyons que le fruit de cette offrande que plus tard. Alors, pouvons-nous questionner ou se poser la question en disant, est-ce que Dieu n'accepte que la viande et non pas les légumes? Non, ça n'a rien à voir avec cela. Non, Dieu a créé ces différentes choses, ces différentes tâches, ces différents travaux. L'un produisait des légumes, l'autre produisait autre chose. Dieu était satisfait avec cela. Mais quand tu apportes ton offrande, Dieu regarde et considère, examine cette offrande. Il est dit, nous lisons qu'il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc si nous lisons, il dit, il portera un regard favorable sur Abel, pas seulement sur l'offrande. Ainsi Dieu veut les deux. Toi, tu apportes ton offrande. Tu n'apportes pas seulement ton offrande ou mon offrande. Dieu ne regarde pas que à cela. Dieu considère, me considère, moi. Et quel type d'offrande suis-je moi-même? Comment est-ce que je me présente devant lui avant même que j'amène mon offrande? Est-ce ainsi que lorsque je présente mon offrande, est-ce que Dieu doit se dire, doit poser la question en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette offrande avec une personne qui sent si mauvais, qui sent mauvais à cause du péché? Peut-être faut-il que la personne aille se purifier d'abord. Cette personne qui apporte l'offrande a l'odeur de la bouse, du champ, l'odeur de la poussière. Et je parle bien sûr un langage spirituel. Tu es peut-être disposé à apporter, zélé, à apporter ton offrande, et pourtant Dieu se dit, mais quelle méchanceté cette personne présente. Peut-être quelle odeur mauvaise cette personne a lorsqu'elle présente son offrande. Le Seigneur, le Dieu, a considéré le cœur de Caïn. Et il a considéré, il a vu que le cœur de Caïn était méchant et mauvais. Ainsi Dieu regarde au cœur. Et Dieu a dit qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur nos offrandes. Son offrande à cause du cœur de Caïn, à cause de sa méchanceté. Alors où est-ce que nous trouvons cela? Qu'il y avait quelque chose d'injuste dans la vie de Caïn lorsqu'il a présenté son offrande. Nous lisons quand Dieu lui parle et qu'il l'avertit. Nous l'avons lu dans la question. Quand Dieu lui dit, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si sombre? Et continue en disant, si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Donc Dieu parle à Caïn et l'avertit, ou tente de l'avertir en disant « Caïn, fais attention, fais attention. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas juste et il te faut faire quelque chose, entreprendre quelque chose pour rectifier ce qui n'est pas juste dans ta vie. » Il lui dit, Caïn, je le vois même sur ton visage, c'est écrit sur ton visage. Pourquoi est-ce que ton visage s'est assombri? Comme s'il y a quelque chose d'écrit sur ton visage et il y a quelque chose de mauvais qui ne va pas dans ta vie. Et nous voyons que le mal qui se trouve dans le cœur d'une personne, même déborde jusque sur l'extérieur, sur son visage. Et si tu laisses cela, si tu laisses ce levain, si tu laisses cette amertume grandir dans ton cœur, alors les choses se verront même sur ton visage. Dieu donc différencie les offrandes. Et avant d'accepter l'offrande, Dieu considère le cœur de celui ou celle qui apporte son offrande. Certains, quand ils apportent une offrande, ils apportent ce qui est aveugle, boitant, maigre. Ouais, peut-être se disent « Ah, c'est quelque chose que de toute façon je ne peux pas utiliser moi-même, alors je vais le donner au Seigneur. » Alors, est-ce que toi, qu'en est-il? Est-ce que tu apportes à Dieu ce qui est chétif, ce qui est boiteux, ce qui est aveugle? Peut-être tu te dis, ah, c'est boitant, c'est pas une bonne chose, alors ça ira bien pour le Seigneur. Où est-ce que tu prends le meilleur, ce qui est précieux? Ce qui fait ton tout, ce qui est important pour toi, et alors tu l'apportes à Dieu. Quand Abel a apporté son offrande, il ne s'est pas précipité. Il a pris son temps et il a pris le meilleur de son troupeau. Il est dit qu'il présenta les premiers-nés et en offrit les meilleurs morceaux. Donc Abel a pris le temps de sélectionner ce qu'il donnait, ce qu'il offrait à Dieu. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Et alors, il a pu dire, je donne à Dieu la chose même qui m'est précieuse, la chose qui a de la valeur à mes yeux, et ça, c'est consacré, ce sera consacré à Dieu. Et même en cela, on voit la différence de caractère. On peut avoir un qui donne à Dieu d'une manière négligée et l'autre à côté qui lui au contraire donne le meilleur de ce qu'il a. Alors, frères, sœurs, quand nous venons dans la présence de Dieu, il nous faut comprendre vers qui nous nous présentons et de quelle manière nous nous présentons à Dieu. Même si nous venons avec une conviction de péché, nous venons à Dieu pour confesser le péché, alors nous devons réaliser vers qui nous venons et avec quelle attitude de cœur nous nous présentons face à Dieu. Peut-être tu restes à un seul endroit et on pourrait dire tu piétines spirituellement. Alors pose-toi la question, comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que tu présentes ton offrande à Dieu? Comment est-ce que, avec quelle attitude de cœur, tu confesses ton péché à Dieu? Alors pose-toi la question. Peut-être tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Alors pose-toi la question, de quelle manière es-tu venu à Dieu? Quelle manière t'es-tu présenté à Dieu pour confesser ta faute, confesser ton péché? Il est dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Pourquoi? Abel était un homme juste, qui craignait l'Éternel et qui aimait l'Éternel. Nous le lisons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Donc, nous pouvons lire passage dans Hébreux 4. Pardon, chapitre 11, verset 4. Donc nous lisons Hébreux 11, verset 4. « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. » Donc, Dieu a considéré Abel comme un homme juste. Il a considéré Abel comme un homme avec un bon témoignage. Il est dit même qu'il parle encore aujourd'hui. Ainsi, Dieu a accepté, a agréé Abel à cause de son sacrifice. Mais nous lisons, nous voyons que Caïn avait un cœur méchant. Même lorsqu'il a été repris, lorsqu'il a été corrigé par Dieu, Caïn n'a pas accepté la correction. Lorsque Dieu a tenté de le reprendre, et alors Caïn n'a pas accepté cette réprimande. Alors en est-il ainsi parmi nous? Y a-t-il des gens qui, lorsque Dieu le réprimande, n'acceptent pas la réprimande, ont le cou raide et ne veulent pas se courber et accepter la réprimande ou la correction de Dieu? Alors réalise, même si tu apportes ton offrande, Dieu ne portera pas un regard favorable à ton offrande si ton cœur n'est pas juste. Donc ce n'est pas seulement ton offrande qui est importante, mais aussi ton cœur. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu apportes ton offrande? C'est dans l'Église que l'on trouve bien des hypocrites. Ils prient, ils apportent leurs offrandes, leurs sacrifices. Peut-être même ils se frappent la poitrine en disant « Je suis bon ». Rappelez-vous l'histoire des deux qui sont allés au temple pour prier. Et à travers leur offrande, ils ont aussi apporté, à travers leur prière, ils ont aussi apporté une offrande. Et l'un était un pharisien, très religieux, et l'autre était un publicain, un collecteur d'impôts, rejeté par les gens parce que considéré comme pécheur. Et tout cela s'est passé dans le temple même, un endroit qui est censé être un lieu saint, dans la présence de Dieu. Et pourtant, on trouve l'un arrogant, orgueilleux, plein de justice propre. Et ce pharisien qui se vante en disant « Je ne suis pas comme ce publicain, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui vole les autres. » Et le pharisien se vante du nombre de fois où il fait une offrande, ou qu'il prie, qu'il fait toutes sortes de sacrifices et d'offrandes. Et il se vante par rapport à ce publicain qui est à côté de lui. Mais le cœur de l'affaire est de savoir comment ont-ils quitté le temple. De quelle manière ou quelle attitude de cœur sont-ils sortis du temple? L'un savait qu'il est pécheur. Il n'a pas beaucoup parlé, il a simplement dit « Seigneur, fais-moi grâce, moi pécheur ». La Bible nous dit que lorsqu'ils ont quitté le temple, l'un avait été aidé, justifié, et l'autre pas. Celui qui est rentré dans le temple et qui était conscient qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et il est sorti, ressorti du temple en ayant été justifié, purifié de sa faute. Et l'autre qui était là en se vantant n'a pas été justifié. Donc l'un, sa prière a été acceptée de Dieu et l'autre n'a pas été acceptée, a été rejetée par Dieu. Comment en est-il? Parce que Dieu regarde au cœur de celui ou celle qui s'approche de lui. L'un se vante de sa propre personne, combien il était bon, et l'autre s'est approché de Dieu en disant « Je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu ». Souvenez-vous aussi ce qui s'est passé avec la veuve qui a porté son offrande, l'histoire que nous lisons dans Matthieu 21. Quand Jésus a observé ceux qui apportaient leur offrande là dans le temple, et Jésus a dit quelque chose d'un surprenant, d'incroyable. Jésus a considéré son offrande, l'offrande de cette veuve, et il a dit, l'offrande de cette femme, de cette veuve, est plus grande que celle de tous les autres. Pourtant, elle avait apporté que deux petites pièces. Elle les avait placées dans l'offrande. Mais c'était tout ce qu'elle avait. C'était là ce pourquoi elle vivait, à partir de quoi elle vivait. Et les autres, leur offrande n'était que superflue. Et Jésus donc a dit que son offrande à elle était supérieure à celle des autres. Nous allons être surpris un jour lorsque nous présenterons devant Dieu et quand ces choses nous seront révélées. Peut-être quelqu'un que tu méprises et on sera surpris de constater la différence entre les positions des uns et des autres. Parce que Dieu regarde au cœur et regarde aux intentions du cœur et la manière dont nous faisons telle ou telle chose. Ici, nous voyons comment le cœur de Caïn était sombre, était noir. Quand Dieu lui parle, quand Dieu l'avertit, Caïn n'écoute pas, Caïn ne suit pas ce qui lui est dit. Et Dieu pourtant l'avertit et en disant, Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, maîtrise-le, toi, il te faut dominer sur ce péché. Alors, chers enfants de l'Éternel, le Seigneur nous demande, nous ordonne de maîtriser, de dominer sur le péché. Le péché ne devrait pas nous gouverner, nous chevaucher. Nous devrions maîtriser le péché au contraire. Tu ne devrais pas en arriver au point de dire « Ah, je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à être libéré de ce péché. » Et pourtant, Jésus est mort à la croix et son sang a coulé pour nous libérer du péché et du pouvoir du péché. Mais lorsque Dieu te parle, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Est-ce que tu obéis ? Tu verras, si tu obéis, alors tu verras que les choses vont changer. Amis chrétiens, il y a bien souvent, nous prenons les choses à la légère. Qu'en est-il de cette irritabilité, cette amertume, qu'il y a dans ton cœur? Cette amertume que tu scelles, que tu abrites dans ton cœur. Sache que tu ne vas pas pouvoir la garder, contenir dans ton cœur longtemps. Parce que cette amertume ne va pas attendre beaucoup de temps pour éclater, pour être révélée. Peut-être tu penses pouvoir la cacher pendant un certain temps, la sceller pour que personne ne la voie, mais sache que cette amertume viendra à la lumière, à la surface. Tôt ou tard, peut-être cette amertume est comme un cœur qui boue, ça boue à l'intérieur. Le problème, quand quelque chose boue, au moment où ça explose, alors, cela affecte et blesse ceux autour. Si tu avais été auprès de quelqu'un et si tu avais mis à la lumière, exposé cette amertume pour pouvoir prier, alors cela ne serait pas la même chose que si cette amertume explose à la lumière et tout le monde réalise alors à ce moment-là quand cette amertume explose. Cette racine d'amertume qui te trouble, peut-être c'est un tout petit peu, et pourtant ça te trouble, ça te dérange, tu n'as pas la paix. Alors, est-ce qu'il n'y a pas au moins une personne vers qui tu peux aller et dire, écoute, une personne de confiance vers qui tu peux aller et dire, écoute, voilà, j'ai telle et telle chose qui me trouble et je suis amer par rapport à cette situation, prie avec moi. S'il te plaît, n'y a-t-il pas une seule personne en qui tu peux avoir confiance et tu peux ouvrir ton cœur? Ou alors, est-ce que tu veux mourir avec cette amertume? Tu es troublé par cela. Tu es pesé. Tu as un fardeau. Tout le monde voit que tu portes ce fardeau. Mais tu n'es pas prêt, disposé à le mettre à la lumière. Mais sache qu'un jour ou l'autre, alors cette amertume explosera et alors sera révélée à la face de tout le monde. Qu'un domine sur le péché. Et Dieu le dit clairement. Si tu ne domines pas sur cette chose, alors les conséquences seront terribles. Et qu'est-ce que nous lisons? Que s'est-il passé après? Est-ce que Cain a été aidé par la parole de Dieu? Toi, la question se pose, est-ce que tu es aidé? Mais Cain, nous lisons, nous voyons que son cœur a été endurci. Et même, il va jusqu'à inviter son frère, c'est lui qui invite Abel en lui disant « Viens, allons dans les champs. » Et Abel n'a pas pensé, n'a pas imaginé. Il s'est dit « Tiens, mon frère m'invite pour aller dans les champs, peut-être pour prendre l'air. » Donc il n'a pas soupçonné le mal, il n'a pas imaginé ce qui pourrait se passer. Ah, quel cœur méchant et mauvais de Caïn. Et il a regardé à droite, à gauche. Il a voulu être sûr que personne n'allait le voir. Et il est dit qu'il a alors tué son frère. Et son péché a amené la mort. Son péché l'a amené à devenir meurtrier. Le péché de Caïn l'a amené à avoir du sang sur les mains. Son péché, même, nous lisons que les gens ont fui loin de lui. Ils avaient peur de lui comme d'un animal. Peut-être nous parlons de Caïn, un homme dangereux. Et pourtant, cet homme dangereux est parmi nous. Vous savez, la chose triste est que tu t'attends que le danger vienne d'ailleurs. Et pourtant, le danger vient de ton propre frère, là où tu ne l'attends pas. Le frère qui sort du même sein, est-ce là lui qui veut me tuer, qui va me tuer? Est-ce que je dois attendre une telle cruauté, une telle souffrance occasionnée par mon propre frère, ma propre sœur en Christ? Est-ce quelque chose même d'envisageable, de possible? Est-ce qu'il n'en est pas ainsi que ton propre frère, ta propre sœur te trahit? Et fasse même une telle chose, comme Caïn, celui qui est chair et chair, os de tes os. Est-ce possible que ton frère et ta sœur dans le Seigneur te trahissent de telle manière et te vendent de telle manière? Oh, combien le cœur de l'homme est méchant et sombre. Ne te suffis pas, ne t'arrête pas au fait que la personne dise « Ah, je suis un enfant de Dieu ». Ne t'arrête pas à cela, parce qu'il peut même être capable de te tuer comme Caïn l'a été avec Abel. Le Seigneur nous a enseigné: si tu as quelque chose avec contre ton frère, comment est-ce que les choses doivent être faites? Alors si tu ne sais pas, alors écoute. Quel est le standard que Jésus a lui-même donné? Il y a une manière de procéder que Dieu nous a donnée. Lorsque mon frère ou ma sœur m'a blessé d'une manière ou d'une autre, Dieu nous donne une manière de procéder. La Bible nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, alors va le voir. Alors, frères et sœurs, spécialement vous, les plus jeunes, écoutez. La Bible nous dit, s'il y a quelque chose entre toi et ton frère ou ta sœur, alors ne laisse pas le soleil se coucher avant de te réconcilier avec lui. Et si tu vas voir ton frère, et après discussion, tu n'es pas capable, ou vous n'êtes pas capable de vous réconcilier, alors la Bible nous enseigne, dit, appelle quelqu'un pour t'accompagner. Alors, va voir quelqu'un et tu peux lui dire, je veux faire la paix avec telle ou telle personne, est-ce que tu peux venir avec moi? Et si la deuxième étape, échoue, alors tu peux demander à des anciens de l'Église, à des plus anciens, de t'accompagner. Parce que le but est de résoudre ce conflit, de résoudre cette différence, ce différend. Mais aller à l'extérieur, sur les médias sociaux, dans les journaux, dans les actualités, et alors tu te répands et tu disperses, alors ça ne va pas régler le problème. Cela n'est pas une manière divine de régler les différends et les problèmes. Parce que en faisant cela, tu n'as pas l'objectif de créer ou d'amener la réconciliation. Et le Dieu lui-même, le Seigneur lui-même nous donne mode d'emploi. Et il ne nous a pas appelés à résoudre les problèmes, les différends de cette manière. Dieu nous a donné un mode d'emploi pur, une bonne manière de procéder à la réconciliation. Et c'est la croix qui apporte la paix, qui apporte la réconciliation. Une des poutres de la croix est horizontale. Et c'est un signe de réconciliation avec les hommes. Caïn, tu es préoccupé, tu es occupé à tuer ton propre frère. Quel terrible péché Caïn a-t-il commis en tuant son propre frère ? Quel péché terrible as-tu commis que le prix de ton péché a été la mort de ton frère. Et tout cela à cause d'une offrande. Une offrande que Abel, que Caïn a amenée en reconnaissance, pour dire merci au Seigneur. Est-ce que Abel a dû mourir à cause de cela? Cela me rappelle quelque chose qui s'est passé dans ma propre vie. Et j'ai l'habitude de partager ce passage de ma vie lorsque je rends témoignage sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Cela me rappelle l'année où je suis venu ici à la mission, en 1978. Je suis arrivé ici rempli de péchés, en portant un lourd fardeau de péchés. Et je suis arrivé avec ce fardeau, sans savoir qui et comment est-ce que je pouvais être aidé avec ce fardeau. Je suis arrivé ici, après être sorti de prison, avec cette question, qui peut m'aider? Parce que mon cœur était chargé, était lourd, lourd à porter. Et je me posais la question, qui peut m'aider? La chose extraordinaire était que je n'ai même pas eu besoin d'attendre un jour pour trouver la réponse à ma question. Le jour même où je suis venu, le Seigneur m'a révélé, m'a montré la manière de me débarrasser de mon fardeau, moi qui étais un homme qui sortait de prison. Et je pensais que mon plus grand problème était le péché pour lequel j'avais été envoyé en prison. Et je me disais, voilà le problème. Et que je dormais, ou que je sois réveillé, je ne pouvais oublier ce que j'avais fait. Et je ne pouvais oublier le sang qui était sur mes mains, le sang de la personne que j'avais tuée. Et aujourd'hui, je lis, je vois les gens qui écrivent. Certains écrivent en disant « Ah, peut-être qu'il n'a pas connu une vraie repentance et qu'il n'a pas vraiment eu de remords sur ce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'a pas tout dit. » Moi, en tout cas, je sais ce que le Seigneur Jésus a fait dans mon cœur. Le Seigneur m'a accordé une paix indescriptible que je ne peux expliquer. Et voilà une paix que pour rien au monde je ne souhaite perdre. Tu peux dire, tu peux faire ce que tu veux, tu n'enlèveras pas cette paix indescriptible que Dieu m'a donnée ce jour-là. Je ne peux pas marcher à la place des autres. Il y a des décisions que j'ai prises devant Dieu. Il y a cette décision que j'ai prise devant Dieu en disant, Seigneur, à partir de maintenant, je veux te servir de tout mon cœur et ma vie ne m'appartient plus. Je te donne tout et ma vie t'appartient. Je t'abandonne tout. Et voilà ce que cela me rappelle. Si le Seigneur te le rappelle, alors prie pour moi, afin que je ne perde jamais de vue cela, que je n'oublie jamais la promesse que j'ai faite au Seigneur. Alors, revenons au point. Quand je suis arrivé ici, je pensais que cela était mon plus gros problème. Mais le Seigneur m'a alors révélé et j'ai réalisé, il m'a présenté, il m'a montré non seulement un corps, mais plein de cadavres. Et j'ai dit, Seigneur, mais je ne connais pas ces gens, je n'ai pas tué toutes ces personnes, je n'ai jamais tué. Pourquoi il y a tant de personnes, une multitude de cadavres devant moi? Mais mon cœur a été brisé quand j'ai réalisé que ces corps étaient de ma faute. Parce que Dieu m'a dit, ces personnes sont mortes à cause de toi. Et j'étais brisé à ce moment-là. Mais le Seigneur m'a révélé en disant, tu n'as pas tué ces gens avec une bombe, un couteau, un fusil. Mais tu as tué ces gens avec ta bouche, avec ta langue. Et alors, les choses ont été révélées. J'ai réalisé que ce que j'avais dit à propos des uns et des autres, en tant que non-croyant, tout ce que j'avais dit sur l'un ou sur l'autre, sans réaliser qu'avec mes propos, je tuais la personne. Alors, je ne sais pas combien de personnes as-tu déjà tuées avec ta propre langue. Je ne sais pas ce que tu as déjà dit, tout ce que tu as dit. Combien de frères et de sœurs as-tu déjà tués avec ta langue? Combien de tes amis as-tu traîné dans la boue avec ce que tu as dit? Et j'étais alors sous une telle conviction de péché en voyant ces cadavres. Je pensais avoir tué qu'une seule personne et je pensais que c'était là mon grand problème. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas le seul problème dans ma vie, que j'avais tué à l'image de Caïn. Caïn, comment as-tu pu tuer ton frère Abel pour une histoire d'offrande? Caïn, est-ce que Abel est coupable au point d'être mis à mort juste parce que son offrande a été acceptée et pas la tienne? Est-ce une raison valable, suffisante pour le tuer? Alors apaise ton cœur devant Dieu et pose-toi la question. À quel état es-tu devant Dieu? Dieu n'attend pas, ne s'excite pas sur la taille et la teneur de ton offrande, mais il attend de voir quel est l'état de ton cœur. Dieu souhaite que nos cœurs soient péchés, que nous soyons réconciliés, non seulement par les apparences, mais réellement que nous soyons un, unifiés par le sang de Christ. Et si tu as mis par ta langue, par tes propos, si tu as mis des personnes à mort, Alors, ne laisse pas le soleil se coucher avant d'avoir rectifié cela, parce que sinon, cela apportera une malédiction. Parce que si Dieu n'agrée pas ton sacrifice, ton offrande, alors mets ta vie en ordre avec Dieu, assieds-toi et examine ta vie devant Dieu, afin que Dieu puisse à nouveau agréer ton sacrifice. Dieu ne se préoccupe pas de l'offrande. Il se préoccupe que nous soyons une nouvelle créature, que lorsque nous apportons une offrande, nous puissions avoir un cœur clair et pur devant lui. Tu sais si Dieu agrée tes prières lorsque tu te présentes. Si Dieu n'agrée pas, n'accepte pas tes prières, alors ne cherche pas le problème ailleurs. Réconcilie-toi avec Dieu. Mets ta vie en ordre avec Dieu afin que Dieu puisse à nouveau agréer ta prière. Et réconcilie-toi avec ton prochain. Et ainsi, ce qui a été mal fait dans l'offrande puisse être rectifié là.
I found myself in the presence of the Lord. I wonder whether you found yourself in the presence of the Lord.
Je me suis comme retrouvé dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas. Il est si bon d'examiner nos vies à la lumière et aux yeux, avec les yeux de Dieu, non pas à la manière humaine, avec une considération humaine, mais avec les yeux de Dieu, parce que c'est cela qui nous apportera la vie, c'est ça qui nous montrera la réalité. Dimanche dernier, j'étais dans une réunion, et à la fin de la réunion, une personne, une femme, est venue et a partagé qu'elle avait eu un rêve. Et elle m'a dit, j'ai eu ce rêve, mais est-ce que peut-être tu peux m'aider pour comprendre le sens de ce rêve ? Elle a raconté que dans son rêve, elle a vu une file de personnes s'approcher de quelqu'un qui était habillé en blanc. Et il avait un livre dans lequel il regardait. Et quand chacun se présentait, il regardait leur front. Et alors, après avoir examiné le front, il faisait un signe à la droite ou à la gauche. Il n'y avait même pas besoin de parole. Cet homme vêtu de blanc Cet homme vêtu de blanc était capable de lire ce qui était écrit sur le front des personnes. Alors, est-ce que Dieu a déjà été capable de te montrer ce qui est caché dans ton cœur. Et comme nous l'avons entendu, il l'apportera à la lumière. Mais cela sera terrible si cela se passera au dernier jour, où il n'y aura plus de choix, tu ne pourras plus choisir, et que c'est celui qui sera habillé en blanc qui fera la décision. Alors, frappe-toi ta propre poitrine et reconnais, oui Seigneur, je suis pécheur. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir parlé. C'est dans ta présence que nous discernons la véritable lumière. Seigneur, accorde-nous des cœurs qui soient comme celui d'Abel et non pas des cœurs comme celui de Caïn. Que lorsque tu nous examines, que nos vies puissent te plaire. Que Seigneur, que cela puisse être des temps, des jours dans lesquels, durant lesquels tu puisses œuvrer dans nos cœurs pour filtrer tout le mal, pour enlever ce qui est mauvais. Afin que nous puissions recevoir la grâce, que nous puissions recevoir le salut à la croix. Et comme ton serviteur nous l'a dit, que cette paix puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te prions que tu puisses accompagner chacun, que tu puisses nous garder par ta grâce. Amen.